L'épouse de Salah Hamouri, Elsa Lefort, déplore un recul de la mobilisation de la diplomatie française après la reconduction pour 3 mois de la détention administrative de l'avocat franco-palestinien. Elsa Lefort sera l'une de nos invitées. Un train a déraillé en Iran. Au moins 17 personnes ont été tuées. C'est arrivé à l'aube. Le journaliste algérien Hissan El-Kadi a été condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger à 6 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt et 50 000 dinars d'amende. Il va faire appel de ce jugement. La défenseure des droits appelle la première ministre à mettre en place un plan d'urgence pour la santé mentale des jeunes. Claire Hédon sera l'une de nos invitées. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, après 9 mois d'audience, place à 3 jours de réquisition dès ce mercredi. L'épouse de Salah Hamouri réagit après la reconduction pour 3 mois de la détention administrative de l'avocat franco-palestinien en Israël, c'est-à-dire jusqu'au 5 septembre prochain. Il a été incarcéré le 7 mars dernier. La détention administrative est une mesure controversée qui permet à la justice militaire israélienne d'incarcérer des suspects sans accusation formelle. L'épouse de Salah Hamouri, Elsa Lefort.
Il est détenu dans la prison d'Ofer, donc c'est une prison qui est uniquement réservé aux prisonniers politiques palestiniens. Ils ne sont pas mélangés avec des prisonniers de droit commun. Il y a une légère surpopulation carcérale et les conditions de détention sont assez sommaires. Ils avaient fait il y a quelques semaines une grève de la faim pour revendiquer le droit à des meilleures conditions de détention, notamment sur les quantités de nourriture. Également, les locaux sont assez vétustes, ainsi que le matériel, les couvertures, les matelas, etc. Voilà, donc c'est assez sommaire, effectivement.
Êtes-vous en contact aujourd'hui avec les autorités françaises sur ce dossier?
Oui, on est en contact avec les autorités françaises, notamment au consulat à Jérusalem. On n'a pas de détails, en fait, on est en contact avec eux, ils nous assurent effectuer des démarches, mais on ne connaît pas le contenu des démarches qui sont effectuées, et force est de constater que là, les démarches n'ont pas abouti à la libération, donc on ne peut pas mesurer le nombre de démarches, ni la conviction qui est mise pour défendre ces citoyens français qui est arbitrairement incarcéré.
Vous estimez qu'il y a eu moins de mobilisation lors de cette détention-là que lors des précédentes?
Oui, clairement, parce que après, de la part de la société civile et de la part de la population, à l'inverse, le mouvement il prend de l'ampleur. On réunit de plus en plus de personnes, d'élus et aussi d'ONG. ONG qui ont des renommées internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch ou la CAT, la FIDH. Enfin, voilà, la mobilisation autour du cas de Salah, elle augmente, mais la mobilisation de la diplomatie française, je suis pas sûre. En tout cas, dans les termes utilisés dans les communiqués, on voit un recul. En 2017-2018, il y avait une exigence de libération et la détention administrative était qualifiée d'arbitraire. Là, pour cette fois-ci, il n'y a pas ce genre de qualificatif. Donc on a effectivement l'impression qu'il y a un recul et qu'il y a un engagement réduit. Et
ce recul, comment vous le comprenez?
On a vu dans les précédents mois qu'il y a eu une augmentation de la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine et également des déclarations assez lunaires. Je pense notamment aux déclarations faites par Castex au dîner du CRIF. Il a lu un discours qui, à la base, était un discours du président de la République, notamment avec des propos concernant Jérusalem et la déclaration, j'essaie de me souvenir des termes exacts, mais que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif et que voilà, c'est reconnu comme tel par le président et dans la bouche de l'ancien Premier ministre. Pour nous, c'est effectivement, ça a l'air de faire partie d'un tout. Ce n'est pas la position de la France. Jusqu'à preuve du contraire, notre ambassade, elle est à Tel Aviv, donc la capitale d'Israël, reconnue par la France, elle n'a pas changé. Et du coup, le respect des droits humains et le respect des résolutions internationales, a priori, la France officielle devrait encore les soutenir. Donc je pense au respect d'un citoyen qui est incarcéré sans charge ni jugement, ça ne devrait pas faire de doute et sa défense devrait être ferme et urgente en fait. Elle devrait être prise vraiment au plus haut sommet de l'État. Il devrait, parce qu'on devrait obtenir des résultats, mais c'est surtout eux qui devraient obtenir des résultats.
Salah Hamouri risque l'expulsion dans 3 mois.
Déjà dans 3 mois, ils peuvent effectivement aussi prolonger sa détention. Et c'est pas limité à un renouvellement. La dernière fois, il avait prolongé deux fois. Et il y a des gens qui passent des années en détention administrative. Alors voilà, le 5 septembre, il se peut qu'il soit libéré, il se peut que sa détention soit prolongée, mais effectivement, il se peut aussi qu'il soit expulsé puisque sa carte de résident à Jérusalem est révoquée. Il y a encore une audience qui est prévue à la Cour suprême en février de l'année prochaine, mais sa présence n'étant pas nécessaire à cette audience. Cette détention, ces deux détentions-là, peuvent être utilisées pour justifier et précipiter effectivement une expulsion, c'est à craindre.
Israël accuse Salah Hamouri d'appartenir au Front populaire de libération de la Palestine, ce que Salah Hamouri nie.
Oui, il nie cette appartenance, il nie également ce qui a pu lui être imputé dans le passé. Israël ne donne aucune preuve sur aucun des faits qui sont imputés à Salah. Et voilà, on sait que la vraie motivation, c'est de faire taire un défenseur des droits humains qui défend les prisonniers politiques palestiniens et de le faire taire et puis de le pousser à l'exil. Enfin voilà, Salah, il est palestinien de Jérusalem. Il y a un véritable enjeu démographique à Jérusalem. Il y a un harcèlement des Palestiniens de Jérusalem, des démolitions de maisons, des expulsions forcées, des arrestations en nombre. Et aussi, il y a des colons qui, avec le soutien de l'armée, harcèlent, on l'a vu à Sharjara, des familles qui sont harcelées et qui vivent dans un stress quotidien. Voilà, tout est fait pour que les Palestiniens, et en particulier ceux de Jérusalem, quittent leur terre. Et là, on voit que cette persécution depuis plus de 20 ans, hein, que Salah a subi depuis plus de 20 ans, elle a vraiment pour but de le faire partir. Après, Israël invoque tout le temps une menace pour la sécurité de l'État d'Israël, mais ça, c'est leur argument qu'ils utilisent toujours. Moi-même, j'ai été expulsée d'Israël, j'étais enceinte de 6 mois, et ils ont prétendu que j'étais un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Tout ça, c'est grotesque, on le sait bien, et... Maintenant, Salah, il est dans son bon droit, c'est sa terre natale, il n'a pas à plier face à cette occupation, donc je pense que c'est ce qui lui est aussi reproché, c'est qu'il reste, et en Palestine, rester, exister, c'est résister aussi.
L'épouse de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, Elsa Lefort. Un train a déraillé en Iran, au moins 17 personnes ont été tuées. Le train a heurté un engin de chantier stationné près de la voie. C'est arrivé à l'aube dans une zone désertique de l'est du pays, à environ 50 km de la ville de Tabas. Le journaliste algérien Hissan El-Kadi a été condamné par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger à 6 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt et 50 000 dinars d'amende. Le directeur de Radio M et Maghreb émergent et poursuivi par l'ancien ministre de la Communication Amar Belimer à la suite d'un article publié en mars dernier. Il est accusé de diffusion de fausses informations, perturbation des élections et réouverture du dossier de la tragédie nationale. Après l'annonce de ce verdict, Hissan El-Kadi a dit sa colère et sa tristesse et annoncé qu'il fera appel du jugement. Conséquence de la guerre en Ukraine, la Tunisie prévoit d'augmenter la superficie cultivée de blé dur à 800 000 hectares. Elle exploite aujourd'hui une superficie de 542 000 hectares, initiative annoncée par la première ministre dans le cadre d'une stratégie qui vise à assurer l'autosuffisance en blé dur. Il s'agit de permettre de surmonter les défis causés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales de la Tunisie. La Tunisie qui dépend à hauteur de 40% des importations pour sa consommation en blé dur. Une voiture a percuté des passants ce matin à Berlin, en Allemagne. Le bilan provisoire est d'un mort et de 8 blessés, selon les pompiers locaux. Le conducteur a été interpellé. La police n'a pas pu préciser s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'une perte de contrôle du véhicule. Cet appel de la défenseure des droits, Claire Hédon, demande à la première ministre Elisabeth Borne de mettre en place un plan d'urgence pour la santé mentale des jeunes. Elle déplore un manque de moyens pour faire face à une situation grave. La défenseure des droits avait déjà alerté en novembre dernier sur l'état de la santé mentale des jeunes mise à mal par la crise sanitaire. Entretien avec Claire Hédon.
Je voudrais tout d'abord rappeler que garantir les droits des enfants en toutes circonstances, c'est vraiment notre mission, je dirais une de nos missions principales. Et quand on voit en ce moment autant de jeunes en souffrance qui n'arrivent pas à se faire soigner, de façon très concrète, leurs droits ne sont pas respectés. Et en tant que défenseur des droits, je suis garante du respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit justement une question de droit à la santé, droit à la santé mentale. Et les chiffres, les derniers chiffres qui sont sortis par Santé publique France sont alarmants. Hein. Vous avez une augmentation de 25% sur les derniers mois, d'augmentation de passage aux urgences pour des gestes suicidaires, pour des idées suicidaires, des troubles de l'humeur chez les jeunes. On voit une augmentation des dépressions, les troubles alimentaires augmentent. Et effectivement, ce que je dis à la Première ministre, c'est qu'il y a vraiment urgence, et c'est urgent de mettre en place un plan de santé mentale pour les jeunes de façon très très concrète, parce que on se demande comment est-ce possible en France de ne pas avoir assez de médecins scolaires, de ne pas avoir assez de lits d'hospitalisation, d'être obligé d'attendre des mois pour avoir un rendez-vous en CMPP, vous savez, ces centres médico-psychopédagogiques. On manque d'universitaires en pédopsychiatrie, il y en a 40 en France, on est dans les pays les moins pourvus en Europe, c'est pas normal, avec en plus des inégalités territoriales, donc oui, je suis assez inquiète.
Et ce défaut de prise en charge des troubles de santé mentale, il est, vous le dites, principalement lié à un manque de moyens aujourd'hui en France ?
Oui, clairement, il y a à la fois un manque de moyens, un manque aussi de prévention, de coordination des différents acteurs, mais qui est aussi lié au manque de moyens. Il y a 6 mois, on avait rendu notre rapport annuel sur les droits des enfants, qui était justement sur la santé mentale, le droit au bien-être. On avait déjà alerté à ce moment-là, on avait bien dit que c'était la vulnérabilité qui créait une possibilité d'atteinte aux droits. C'est pas possible aujourd'hui que nos jeunes soient moins bien traités que les adultes. J'ai conscience de difficultés que rencontre l'ensemble du secteur de la santé, mais la pédopsychiatrie est encore plus en difficulté, et donc c'est urgent de prendre la pleine mesure de la gravité de la situation et d'agir aussi bien au niveau, je dirais, de la prise en charge quand il y a justement des actes et des idées suicidaires, mais aussi sur la prévention pour éviter que les situations s'aggravent. Dans les réclamations que nous recevons à l'institution du défenseur des droits, on est souvent frappé du retard mis en place. Enfin, les premiers signaux d'alerte n'ont pas été pris en compte et très souvent liés au manque de moyens de l'ensemble des structures. Et entre autres, ce que je vous disais, des centres médico-psychopédagogiques. Alors, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement d'en recruter 400, mais 400, ça fait moins d'un par centre, et il en faut beaucoup plus. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, il faut des efforts beaucoup plus concentrés, beaucoup plus importants, si on veut vraiment inverser la tendance.
Et est-ce un sujet encore trop tabou, la santé mentale?
Alors, je trouve qu'on a progressé, mais vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui reste un sujet tabou, mais je trouve que ça pose réellement la question du quelle société voulons-nous offrir aux jeunes qui sont les adultes, aux jeunes et aux enfants qui sont les adultes de demain. Qu'est-ce que ça dit aussi de la façon dont on traite les personnes les plus vulnérables, sur lesquelles il faut faire plus attention pour que leurs droits soient respectés? Donc ça dit quelque chose de ce que veut notre société, et c'est bien pour ça que c'est important d'aller plus vite et plus fort. Et puis, l'autre chose qui me frappe, c'est qu'on a du mal à écouter les enfants et les jeunes. Leur parole est pas assez prise en compte, et ça, je pense que c'est aussi un changement de mentalité qui n'est pas lié qu'aux questions de moyens.
Et cela concerne bien entendu l'ensemble des milieux sociaux.
Oui, c'est très important de le rappeler, c'est que ça concerne l'ensemble des milieux sociaux. Alors c'est sûr que des enfants et des jeunes de milieux défavorisés se retrouvent plus en difficulté, mais sur l'impact de la crise sanitaire que nous avons traversée, nous voyons bien que ces questions-là touchent l'ensemble des milieux, et l'ensemble des milieux qui se trouvent en difficulté pour accéder aux soins par manque de place. Enfin, on a été alerté récemment sur la situation d'une jeune qui, première tentative de suicide, est allée aux urgences, n'a pas pu être hospitalisée parce qu'il n'y avait pas assez de lits, et qui a fait une deuxième tentative de suicide. Et évidemment, on sait bien là que la prise en charge aurait probablement éviter la deuxième tentative de suicide. Donc ce sont des choses importantes. Et quand la santé mentale est atteinte, qui est quand même un droit pour les enfants, on a une convention internationale des droits de l'enfant, on doit la respecter, c'est d'autres droits qui sont atteints. Vous savez bien que dans ces cas-là, ces enfants et ces jeunes ne sont pas en capacité de suivre bien à l'école, d'apprendre, de faire des études. Donc respecter le droit au bien-être et à une santé mentale, c'est vraiment ce qui permet aussi d'accéder aux autres droits.
Parce que la crise des urgences frappent bien entendu aussi les urgences psychiatriques.
Absolument. Mais la crise, vous voyez bien dans l'histoire que je vous ai racontée, la crise des urgences, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de lit après pour hospitaliser cette jeune. Et donc, elle est aussi liée à l'ensemble du secteur. Et l'ensemble du secteur de la psychiatrie est encore plus en difficulté que le reste de la santé en France. Et la pédopsychiatrie, je dirais, encore plus que la psychiatrie adulte.
Une personne qui vous écoute, une jeune personne qui vous écoute, qui n'est pas bien en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ?
Alors, clairement, c'est d'abord le contact avec les points locaux, le médecin traitant, les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, les urgences. Et après, quand il y a eu trop de difficultés d'accès aux soins, c'est vrai que c'est important de dire qu'on peut nous saisir. Enfin, quand je vous disais au début, notre mission, c'est vraiment garantir les droits des enfants et des jeunes, c'est notre travail. Quand il y a eu trop de difficultés d'accès aux soins, qui est un droit d'accéder aux soins, effectivement, nous sommes un recours pour analyser qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi les droits de la personne, et en l'occurrence de l'enfant ou du jeune, n'a pas été respecté.
La défenseure des droits, Claire Hédon. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, après 9 mois d'audience, place à 3 jours de réquisition. Les représentants du parquet national antiterroriste vont démontrer quelles sont, selon eux, les responsabilités de chacun des accusés jugés depuis le 8 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. La parole est à l'accusation dans ce procès qui juge Salah Abdeslam et 19 co-accusés après ces attaques terroristes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, les pires attentats jamais perpétrés sur le sol français. La semaine prochaine, le procès arrivera dans sa dernière phase avec les plaidoiries de la défense et le verdict est attendu le 29 juin prochain. Ce sera du 14 juin au 2 octobre prochain à l'Institut du Monde Arabe à Paris. L'Institut accueille en avant-première mondiale l'expédition immersive L'Horizon de Khéops. Lima souligne qu'elle offre aux visiteurs l'illusion de voyager librement grâce à un équipement de réalité virtuelle et un parcours de plus de 500 mètres carrés au cœur de l'un des sites archéologiques les plus importants de l'humanité. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 12h17. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.